Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Notre bien-aimé Frédéric nous a prêché le dimanche passé sur le cœur du Fils. Alléluia. Oh, ça a été comme une source d'eau agréable. Recevant la parole dans le cœur, qui a été béni par la parole. Nous tous. Amen. Un cœur de fils, un cœur d'enfant. Un cœur de personnes, n'est-ce pas, qui connaissent leur Dieu et que leur Dieu connaît. Et une relation assez profonde, approfondie avec Dieu, parce que nous avons ce cœur de fils. Et il y a deux dimanches, vous en souvenez, on avait vu le film d'un... Certains Arthur Blessit, vous vous en souvenez aussi? Un homme qui a accompli quelque chose que très peu accomplissent quand même. Il a fait le tour du monde avec la croix de Jésus. Et quel fruit cet homme a porté? Extraordinaire. Et j'espère que ce film ne vous a pas seulement ému. Souvent on est ému par les choses qu'on est ému, ça nous fait du bien. Ou bien souvent, il y a une prédication qui nous touche. Et lorsque, à la fin de la prédication, on voit les prédicateurs, vraiment, ça m'a touché, tu as bien prêché, tout et tout. Mais laisse-moi vous dire que Dieu, ça n'intéresse pas trop Dieu qu'on soit ému. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on soit transformé. Mais qu'est-ce que le message a eu comme impact dans ma vie? Quel changement le message ou le film a apporté dans ma vie? Est-ce qu'il y a un après le film ou message et un avant? Où c'est toujours la même chose et qu'on attend le temps du Seigneur. Racheter le temps, là, il était question tout à l'heure du fait que nous sommes dans les derniers temps. C'est même plus une question de dernières heures, elle a dit peut-être même dernières secondes où il faut que nous rachetions ce temps-là. Moi, je veux simplement parler de, bien sûr, du rebondir un peu sur le message, mais toucher un peu l'aspect du discipola. Alors, comment passer du cœur de fils au cœur de disciple? En réalité, il n'y a pas de dualisme, de séparation entre le cœur, entre le fils et le disciple, parce que celui qui est fils, il est disciple automatiquement. Amen. Celui qui est fils, il est automatiquement disciple. Parce qu'il a été expliqué le dimanche passé. Lorsqu'on est fils, on n'est plus dans une dimension de, d'esprit d'orphelin, une dimension, d'esprit d'esclavage. Et même Jésus ne nous appelle même plus serviteur. Il nous appelle comment? Ami. L'ami, c'est le disciple aussi. Amen. Mais malheureusement, on est obligé de dire, de prêcher sur le thème, comment passer de fils à disciple? Parce que malheureusement, il se trouve que très souvent, même ayant un cœur de fils, on n'arrive pas à avoir un cœur de disciple. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 54. Lisons Ésaïe 54, rapidement. Ésaïe 54 nous dit voilà, Ésaïe 54, le verset 13. Ésaïe 54, verset 13 nous dit, tous tes fils seront quoi? Disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils doivent devenir des disciples de l'Éternel afin que leur prospérité soit grande. Alors, vous savez, le fils, il devient disciple par la discipline. N'est-ce pas? Vous savez, sur le plan humain, lorsqu'on a un enfant, il a beau être notre fils, si on ne le discipline pas, il ne pourra pas avoir les réflexes d'un homme ou d'une personne qui plus tard a le savoir-vivre et le savoir-faire dans la société. Et la même chose sur le plan spirituel, lorsque nous avons, en tant que chrétiens, ne sommes pas soumis à une discipline, et je parle de la discipline du Seigneur, nous ne pouvons pas avoir les réflexes, les comportements qui vont être compatibles avec le royaume de Dieu, malgré notre amour de Jésus. Parce qu'il existe une mentalité du royaume, il existe un comportement du royaume, il existe une action pour le royaume qu'on doit avoir. Alors, lorsqu'on parle de discipline, très souvent, on voit tout de suite l'aspect contrainte, ou l'aspect domination, ou l'aspect, des choses qui sont négatives. Mais non, la discipline est associée à l'amour. Amen. Et en cela, ne prenez pas, je le lis, dans Proverbe 13 et 24. La Bible dit, il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Mais celui qui l'aime cherche à le discipliner. La discipline est une marque d'amour, un signe d'amour de Dieu pour nous, un signe d'amour de notre frère à notre égard. La discipline permet au père de forger pour son fils une mentalité propre au royaume de Dieu, de développer des réflexes propres au royaume de Dieu, un caractère propre à ce royaume de Dieu. Maintenant, je vais voir rapidement avec vous, je parlerai pas trop, on va être très bref, rapidement, comment donc un fils peut devenir un disciple? Comment est-ce qu'un fils peut devenir un disciple? Alors, j'ai vu là un peu l'exemple de Jésus. Comment Jésus a formé ceux qui le suivaient à devenir des disciples? Jésus les a formés en leur inculquant une mentalité. Une mentalité. En leur inculquant un savoir-faire et un savoir-être. Vous savez, un fils, il est attaché à la personne du père, n'est-ce pas? Mais un fils qui est disciple est non seulement attaché à la personne du père, mais en plus il est attaché à quoi? Il est attaché au projet du père. Amen. Je pense que vous comprenez bien ce que je dis. Ça dit, regardez, c'est quoi l'amour de Dieu? Quand je dis j'aime Dieu, ça veut dire quoi que j'aime Dieu? Ça veut dire que j'ai des sentiments pour Dieu à son égard. Je suis touché en mon fort intérieur, n'est-ce pas? Lorsque j'entends parler de Dieu, je suis attaché à la personne de Dieu. Et parce que la Bible dit que la personne du Seigneur est admirable en tout point de vue. Lorsque je parle du nom de Jésus, je suis content, je suis heureux, je suis en joie, je suis en paix. Il y a tellement un bien-être dans sa présence. Mais malheureusement, il peut arriver que l'on désire, n'est-ce pas, la personne de Dieu, mais que l'on refuse les projets de Dieu. Parce que connaître une personne, c'est la connaître à la fois dans sa personne, mais dans ses projets, sinon je ne la connais pas. Sinon, le jour où la personne va aller dans ses projets, je ne la suivrai pas. Parce que c'est lui qui m'intéresse et pas les projets. Alors, je donne l'exemple simple de Jésus. Regardez très bien. Jésus, vous savez, je pense qu'on a souvent besoin de relire la Bible, c'est-à-dire de relire tout le Nouveau Testament. Mais d'un seul trait. Non pas en picorant certains versets jour après jour, et on perd finalement le fil et l'idée directrice de la parole de Dieu, mais il y a souvent nécessité, et cela est poussé par le Saint-Esprit, à ce qu'on lise, mais d'un seul trait la Bible, pour comprendre la pensée de la Bible. Et quand tu relis le Nouveau Testament, tu te rends compte un peu de ce que Jésus était, et de ce qu'il faisait. Et c'est tellement différent de ce qu'on fait, de ce qu'on est aujourd'hui, mais qu'on se dit, mais est-ce qu'on lit la Bible? Bien sûr qu'on la lit. Mais pas de façon linéaire. Alors, regardez Jésus. Prenez Matthieu le chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, Jésus fut rempli, et en ce sens-là que ça rejoint un peu, vous savez, le mouvement que Dieu a produit tout à l'heure pendant le culte, ce sentiment d'entrailles qui se remue, de fardeau, n'est-ce pas, qu'on sent dans le cœur. Jésus fut rempli, dans d'autres versions, c'est ému de compassion pour toutes ces foules. Pourquoi? Parce qu'elles étaient blessées et elles étaient abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, écoutez très bien, Jésus arrive d'un endroit où il y a une foule immense d'hommes et de femmes. À ses côtés, il y a ses disciples. Ses disciples qui le suivent depuis belle lurette, qui l'aiment d'un amour indéfectible. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, il voit une foule immense d'hommes et de femmes. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller en Israël pour voir cette foule immense d'hommes et de femmes. Tous les jours qui passent dans notre entourage, dans les bus, dans notre lieu de travail, partout où nous sommes, nous voyons ces mêmes foules que Jésus a vues. Mais à la différence de nous, Jésus, à la vue de ces personnes, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des hommes et des femmes abattus, blessés, qui se dirigent mais directement vers l'enfer, parce qu'il n'y a presque personne pour les éloigner de ça. Et Jésus est ému de compassion dans son cœur. Et dans son émotion, Jésus va dire à ses disciples, Jésus va partager son cœur à ses disciples. Jésus va partager ses projets à ses disciples en leur disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il présente son besoin à ces personnes-là. Il y a tellement peu de personnes, tellement peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Jésus va communiquer son cœur à ses disciples. Il va communiquer son besoin à ses disciples. Il va communiquer sa souffrance à ses disciples. Voilà comment Jésus est en relation avec ceux qui ont été appelés, qui ont décidé de le suivre comme disciples. Alors, moi, la question que je pose, c'est la suivante. Est-ce que nous avons, en tant que disciples, est-ce que nous avons compris la priorité et le cœur de Jésus? Une question très importante. La Bible dit, Jésus, c'est lui qui parle en disant, vous savez, lorsqu'un berger a 100 brebis et qu'il perd une seule brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis où? Dans le? Non, c'est même pas tout là, dans le désert. C'est écrit dans le désert. Il les laisse dans le désert et il va chercher la brebis. Ça, c'est le projet de Jésus. C'est le cœur de Jésus. Si les 99, et souvent nous sommes ces 99-là, qui n'avons pas besoin de repentance. Jésus, lorsqu'on l'accepte lui et qu'on n'accepte pas ses projets, lui, il s'en va chercher sa brebis perdue. En principe, si on aimait ses projets, on le suivrait avec lui. On le suit. Mais comme on ne veut pas de ça, on reste. Mais où? C'est pas dans le pâturage. On reste dans le désert. Et là, on commence à souffrir. On commence à ne plus avancer spirituellement. Et on commence à trouver toutes sortes de justifications de notre régression spirituelle. Mais la question, est-ce que tu as suivi Jésus dans ce projet? Alors, Jésus donne donc une mentalité et des entrailles et de compassion à ses disciples. Et lorsqu'on n'a pas ces entrailles de compassion, vous savez, c'est des choses, ça ne se crée pas. Vous savez, moi, ça ne se décrète pas, ça ne se crée pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Et si tu l'as pas, c'est très simple de l'avoir. C'est tellement simple de l'avoir. C'est d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et Jésus te donne son cœur. Donne-moi ton besoin. Il te donne son besoin. Donne-moi ta préoccupation. Il te donne sa préoccupation. Il dit, mon fardeau est doux et léger. C'est celui-là le fardeau de Jésus. Donc tu porteras son fardeau avec lui parce que tu as dit que tu veux être disciple. à moins que tu ne veuilles pas être disciple. Vous savez, on peut ne pas vouloir être disciple. La Bible dit que Jésus, il avait plusieurs foules qui le suivaient. Plusieurs foules. Mais parmi ces foules, il avait ses disciples. Qui veut être disciple? Quel disciple? Alléluia. Alors, mais quand Jésus nous donne un cœur de disciple et que nous avons la compassion pour les autres, vient ensuite la deuxième phase. Et cette phase, on ne l'aime pas souvent, les amis. C'est la phase de la discipline maintenant. Jésus nous donne son cœur. Ensuite, on doit avoir sa discipline pour accomplir ses œuvres. C'est pour cela que vous verrez, il y a souvent plusieurs chrétiens. Le chrétien A, le chrétien B, ils ont peut-être le même cœur, le même amour de la personne de Jésus. Mais aussi le même cœur, le même amour pour les projets de Jésus. Mais tout dépendra finalement de la discipline que chacun va accepter dans sa vie ou pas. Parce que pour évoluer dans le royaume de Dieu, il y a des principes à respecter. Paul va dire, Paul était le père spirituel de Timothée. Il dit, pour toi mon fils Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, mes projets. Ensuite, il va citer ma souffrance, mes persécutions, ma foi, ma douceur. Tu as suivi tout ça. Ensuite, il dit à Timothée, Timothée, si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se conduire dans l'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Tu sauras comment il faut se conduire. Timothée, tu as reçu le cœur de Jésus, tu dois accomplir l'œuvre de Dieu, mais comment tu dois l'accomplir? Timothée, tu dois agir selon les principes de Dieu, selon, n'est-ce pas, la mentalité du royaume de Dieu. Alors, c'est quoi ce cœur de Dieu? C'est quoi plutôt cette mentalité du royaume? Jésus œuvrait à communiquer à ses disciples une mentalité d'exclusivité et d'engagement à sa cause. Amen. Une mentalité, c'est-à-dire, écoutez-moi très bien, on a un cœur foudroyant pour le royaume. Vous savez, quand Dieu m'a touché, c'est-à-dire, lorsque j'ai vu Jésus en tant que sauveur, en tant que Seigneur, dès l'instant où j'ai dit à Jésus, je veux me livrer à toi comme un sacrifice vivant pour te servir. Mes amis, j'ai servi Dieu. Je l'ai servi. Et au bout de 8 mois de conversion, on avait bâti même une église. On était deux. Moi j'avais 8 mois, l'autre avait 6 mois de conversion. On était des chevaux inarrêtables, des zélés inarrêtables. On cassait tous notre chemin. On avait un amour fou de Jésus. On évangélisait toute la commune à Bobo, que la plus grande commune de Côte d'Ivoire, avec plus d'un million d'habitants, un adège, et qu'on intervient cette commune. On évangélisait dans tous les sens, dans toutes les conditions, dans toutes les positions. Qu'il pleuve pas, on évangélise. Qu'il y ait des obstacles ou pas, on évangélise. L'église où on était, il disait qu'on était trop jeune, trop inexpérimenté, donc il fallait qu'on se calme un peu. On a dit, bah, d'accord, on vous quitte. On a quitté l'église. On est parti, on allait faire l'œuvre du Seigneur. Mais vous savez, malgré cela, Dieu, il s'est dit dans son conseil avec ses anges, ces deux-là, il faut qu'on les calme un peu. Il faut qu'on les discipline, bon, pas calmer dans le sens freiner l'élan, mais qu'on les discipline un peu. Parce que si on n'est pas discipliné selon les principes du royaume, on va faire l'œuvre de Dieu avec zèle, amour. Mais plus tard, on va s'arrêter. On va s'arrêter. On ne pourra plus continuer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fonctionne selon ses principes. Quand à la longue, tu ne comprends pas les principes de Dieu, Dieu ne coopère plus avec toi. Et l'une de ces disciplines, c'est quoi? C'est l'esprit d'engagement. L'engagement. L'esprit d'exclusivité. Alléluia. Et écoutez très bien ce que Jésus va dire, n'est-ce pas, à ses disciples. Donc d'abord, la mentalité d'exclusivité. Être disciple, c'est adapter la mentalité, adopter plutôt la mentalité d'exclusivité pour Jésus et sa cause. Jésus va dire à ses disciples, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Vous savez, Jésus, sans cela qu'il est un peu différent de nous, il mettait toujours la barre haute. Et ce soir, je vais mettre la barre haute pour en décourager plusieurs. En fait, pas pour vous décourager. Amen. Parce que plus tard, il y a un disciple qui va dire, mais qui peut accomplir ça? Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est-à-dire, en association avec Dieu, tout est possible. Quand Jésus dit d'avoir une relation, mais un engagement exclusif pour lui, ça n'est pas dit qu'on ne doit pas s'occuper de nos familles. Non. Ça veut dire que quoi? Celui qui s'engage d'une façon partielle avec Jésus, il ne pourra même pas s'occuper de sa famille comme Jésus le veut. C'est celui qui a une relation, celui qui aime Jésus plus que sa famille, qui va le mieux prendre soin de sa famille. La Bible dit, celui qui prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Pour ne pas être pire qu'un incroyant pour prendre soin de sa famille comme Jésus le veut, par rapport à la destinée prophétique de ta famille, Jésus dit, lâche, abandonne ta famille entre mes mains et préfère-moi à ta famille parce que j'aime ta famille plus que toi-même. Relation d'exclusivité, d'engagement. Jésus va dire à l'engagement tout à l'heure. Deuxième mentalité à adopter et dans laquelle Dieu veut nous discipliner, c'est ce que j'ai appelé la mentalité sacrificielle. La mentalité sacrificielle. Les chrétiens que nous sommes, on n'aime pas trop les sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour nous, une fois pour toutes, c'est fini. Oui, c'est vrai. Mais nous aussi, il nous demande, sans cela qu'il dit que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il ne dit pas, il ne veut pas être, parce que la personne veut être son disciple. Il dit, tu veux être mon disciple? Tu dis oui. Il dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas prêt à prendre ta croix sur toi. Et quand on parle de croix, c'est l'aspect sacrificiel. Celui qui est prêt, n'est-ce pas, à se sacrifier, à payer le prix, pas n'importe comment, mais à payer le prix que Dieu veut qu'il paye. Parce qu'il ne faut pas se créer des prix à payer. Faut pas s'écrire des sacrifices. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui font des pénitences. Des pénitences. My God. Il y a même des gens qui se flagellent avec des... Parce qu'en se flagellant, ça, c'est les prophètes de Baal qui ont agi comme ça. Ils ont appelé Baal du matin au soir. Baal dormait, il venait pas. Ils se sont dit, il faut qu'on se flagelle un peu parce que Baal, il aime le sang. Quand il verra la couleur rouge sur nous, Baal va se réveiller. Ils se sont flagellés, le sang a coulé. Baal dormait toujours parce que Dieu l'avait endormi. Ah, voilà, donc mentalité sacrificielle. Troisième position, allons-y. La mentalité, ce que j'appelle la mentalité de l'architecte, la mentalité du constructeur, de l'architecte et du constructeur. Demandez à un architecte comment il construit les maisons, il vous dira qu'il fait très, très attention, qu'il respecte tous les principes de l'architecture, tous les principes du génie civil pour trouver les bonnes dimensions, les bons principes à mettre en œuvre pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et Jésus va dire quoi? Jésus va dire, pourquoi je parle de cette mentalité? C'est parce que Jésus va dire, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Voilà celui qui peut être un disciple. Celui qui commence à construire une tour, qui pose la fondation de la tour et qui termine. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire que pour être un disciple, il faut avoir la mentalité de celui qui construit une tour. Celui qui n'a pas l'impression de construire une tour alors qu'il est enfant de Dieu. Jésus dit, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que, voilà, il y a cette phase-là. Je pose d'abord la fondation qui est Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit bien qu'on peut poser la fondation et puis après ne pas la terminer. Non, ce n'est pas une question de poser la fondation. Ce n'est pas une question d'avoir Jésus dans notre vie. Ce n'est pas une question d'avoir Jésus au centre de notre vie. Mais on peut l'avoir là, mais ne pas pouvoir vouloir terminer parce que dès le départ, on n'a pas pris le temps de calculer la dépense. Je veux m'engager avec Jésus. Je veux m'engager dans tel ministère, dans tel service, dans tel département, dans telle chose, dans telle mission, telle initiative. Mais si je ne m'assois pas pour calculer la dépense, je ne peux même pas commencer. Ou si je commence, je ne la terminerai pas parce que je ne suis pas un disciple. C'est pour cela que je vous encourage. Bien-aimés, lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, asseyez-vous, calculez la dépense. Et si vous ne pouvez pas, allez dire à Jésus, avec honnêteté, Jésus, je ne peux pas être disciple. Il n'y va pas te blâmer, il ne te blâmera pas le Seigneur. Il t'aidera à le devenir, peut-être dans le temps qui vient. Mais dès le départ, à se dire la vérité. Et moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église du 21e siècle est si faible, est si fragile. C'est-à-dire qu'on a tout rabaissé dans l'Église. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux uns aux autres, on se fait croire à nous-mêmes. Et c'est souvent notre faute, nous les prédicateurs. On a tellement mis là-bas, à ce niveau-là, que tout le monde vient. Et puis ensuite, on se rend compte que tel ne peut pas, tel ne peut pas, tel ne peut pas. Parce qu'on n'a pas pris sur le dit aux gens, asseyez-vous d'abord et calculez la dépense. Parce que vous construisez une tour. Le disciple construit une tour. Je vous pose la question, c'est quoi cette tour-là? Il s'agit de quelle tour, en fait? Vous savez quoi? Il s'agit, en fait, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une demeure dans le ciel. Et quand je viendrai, je vous prendrai et j'irai avec vous pour que là où je suis, vous y soyez également. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, est-ce que vous savez à quoi va ressembler la Jérusalem céleste? La Bible dit, elle aura la forme de quoi? D'un cube. Amen. Elle descend du ciel sous la forme d'un cube. Une ville, je vous pose une question, une ville qui a la forme d'un cube, qu'est-ce que cela signifie à votre avis? Ça veut dire que la ville, en fait, supposons que la ville, dans sa dimension, sur un plan horizontal, que la ville soit carrée. Mais pourquoi elle ressemble à un cube? C'est parce que cette ville est constituée de tours. De tours qui ont la même dimension. Et la Bible même donne la dimension, puisque la largeur sera égale à la longueur, à la hauteur. Donc, la dimension, la hauteur de la tour de la Jérusalem céleste sera égale à la longueur, à la largeur de ce truc-là. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Le disciple sur terre, avant qu'il n'aille dans cette demeure céleste, en fait, c'est en collaboration avec le Saint-Esprit, c'est lui-même qui construit sa propre demeure là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. C'est le chrétien qui construit. Dominique a donné un jour un exemple lorsqu'il prêchait à l'école, plutôt au week-end rencontre. Dominique a dit, il y avait un homme qui devait, on lui a donné de l'argent, tout ce qu'il fallait pour construire une maison. Vous vous souvenez? Et il a commencé à bâtir la maison. Il n'avait pas l'impression que c'était sa propre maison qu'il bâtissait. On lui a rien dit. Et donc, il ne s'est pas pris avec sérieux. Il a bâti comme s'il bâtissait pour son meilleur ennemi. Donc, il a fait avec du matériel. Il a picoré dans les fonds qu'on lui a donné. Il a construit avec du matériel de moindre qualité. Il a fait du n'importe quoi. À la fin, les gars viennent, ils lui disent, monsieur, vous venez de construire votre maison. Et là, il se rend compte qu'il a tout bâclé. Il attrape sa tête. Il y a un homme qui a eu un jour une vision. Non, la terre a vu en esprit. Et il est arrivé au ciel. Au ciel, Jésus lui dit, monsieur, venez, je vous montrerai votre demeure. Il s'est dit, waouh, j'irai voir ma maison dans le ciel. Waouh. Donc, il a attrapé la main de Jésus. Ils se sont précipités, ils sont allés. Il a commencé à voir plein de belles maisons. Cette maison appartient à qui? C'est la maison d'Abraham. Et celle-là, c'est David. Waouh. Et c'est celle-là, ça c'est pour bon, X, hein, qui habitait. Ensuite, ils arrivent au fur et à mesure qu'ils approchaient, un quartier. Souvent, quand vous sortez des quartiers résidentiels bien conçus et que vous allez un peu vers les bidonvilles, vous voyez un peu que la structure change un peu. Hein, l'environnement change un peu. Tout change. Le gars a commencé à s'inquiéter un peu. Il dit, mais où on s'en va là, Jésus? Il dit, mais je vais te demander ta maison. Il dit, aïe. Il est arrivé dans un endroit, une maison inachevée, sans peinture, dans les herbes, avec les épines. Jésus dit, voilà ta maison. Il dit, mais Seigneur, mais comment ça? Jésus dit, mais si, c'est, en fait, ici, là. Bon, en fait, tu es rentré ici parce que je suis mort pour toi à la croix. Donc, tu es rentré dans cette dimension-là, sans les œuvres. Hein, par la foi. On est sauvé par la foi, par la grâce. Donc ça, tu es sauvé. Il y a la fondation, Jésus, hein, je suis dans ton cœur. Mais après, quand on est sauvé, là, dans le ciel, tout le monde n'est pas à la même position. Et c'est écrit dans la Bible, ça. Dans le ciel, la position de chacun va dépendre des œuvres du Saint-Esprit qu'il aura accompli ou pas dans sa vie. Et celui qui aura accompli les œuvres du Saint-Esprit, il aura une récompense dans le ciel. Et cet homme n'avait pas de récompense. Et Jésus dit, c'est la qualité de ton travail sur la terre. Tu n'as pas été disciple. Tu avais une tour à construire, tu n'as pas construit, tu as posé la fondation. Donc moi, Jésus, dans ton cœur, mais tu n'as pas achevé. Donc, c'est normal, ce n'est pas achevé. Et donc, voilà un peu une autre mentalité qu'on doit avoir, de constructeur et de bâtisseur. Troisième mentalité, c'est la mentalité du soldat de l'armée. Jésus dit, il dit alors, de même, si un roi part en guerre et contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre n'est pas, et encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Jésus dit, donc, le disciple, c'est aussi comme un soldat. Le disciple est un soldat. Et un soldat qui combat avec une moindre ressource. Jésus dit, un disciple est un soldat qui combat avec moins de ressources que le diable. Et donc, si le disciple veut avoir la victoire, il doit s'associer avec l'Éternel des armées pour qu'il puisse remporter la victoire. Parce que, dès le départ, il est en infériorité numérique. Alors, ce disciple-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce disciple, donc, il a une spontanéité d'aller dans la présence de Dieu et de requérir la présence de Dieu. En d'autres termes, ce disciple est une personne qui aime l'association avec Jésus. En plus d'être un soldat. Et demandez, est-ce qu'il y a un soldat dans la salle? Demandez aux soldats quels sont les principes qui prévalent dans l'armée. Et la Bible dit que un soldat ne peut pas remporter la victoire, être récompensé s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il y a les mêmes règles dans le royaume de Dieu. Des règles dans l'armée, c'est la loyauté. La loyauté. Quand je dis à Jésus, Seigneur, je m'engage pour ta cause, c'est à la vie et à la mort. C'est à la vie et à la mort. Sinon, je suis pas obligé de me décider. Je suis libre. Je peux dire, Seigneur, je m'engage pas. Et Dieu ne viendra pas me frapper. Il me laissera. Mais si je m'engage, c'est à la vie et à la mort. Voilà comment Jésus forme ses disciples. La loyauté, la fidélité, l'engagement dans l'armée. L'engagement dans l'armée. Amen. Vous savez, un jour en Israël, Moïse a dit, bon, ce n'est pas une armée, mais on comprend que c'était une armée terrestre. Hein? Moïse a dit à tous les Lévites, passez dans les rangées, tuez vos parents. Ils n'ont même pas demandé, mais pour quelle raison on va les tuer? Ils sont allés les tuer. Je suis sûr que c'est après qu'ils se sont mis à demander, mais attends, pour quelle raison on les a tués? Ça dit, c'est des gens qui obéissent, je dirais pas aveuglément, mais de façon indéfectible. Et un disciple doit obéir. Je n'ai pas le temps de raconter tout mon témoignage, mais simplement ce que je veux dire. Comme j'étais un cheval sauvage, un cheval qui était sans bride, j'étais, comment dirais-je, un train sans frein, une voiture sans frein, un chrétien tellement zélé qui cassait tout sur son chemin. Dieu m'a envoyé un jour dans une église. J'arrive dans l'église. À la fin des cultes, oh, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je lève ma main. J'envoie à la fin des cultes les services d'accueil vers moi. Comment vous appelez? Au maire Kwaku. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis venu faire mes études dans telle vie ou tout. Et vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien et même je suis évangéliste. Je suis évangéliste. J'ai créé une église au niveau d'Abobo. Donc je viens dans cette ville aussi pour bouleverser la ville au nom de Jésus. Tout autour. Et donc, mais je vous dis la vérité, c'est une fille. Elle n'a même pas été impressionnée par ce que j'ai dit. Elle dit, tu habites où? J'ai dit, j'habite dans le quartier d'Aounyansou. Ceux qui connaissent Boaké, hein, Aounyansou. Elle dit, qui a sa cellule à Aounyansou là? Il y a un jeune. Tu vois son visage, on dirait un bébé. Il se lève, il dit, c'est moi. On dit, tu vas être dans la cellule de ce gars-là. Et il va t'enseigner. Mais je les ai mélangés. Il dit, mais vous foutez de moi? Attends, vous foutez de moi, là? Moi, je suis pasteur. Je suis évangéliste. Ou pas. Ensuite, le gars, il avait 17 ans. Moi, j'avais 20, 21 ans. 17 ans. Il va être mon formateur. Je vais aller faire une église. En plus, dans une cellule. Il n'y a même pas 8 personnes. J'ai dit, mais... Je me suis plaint, j'ai claqué la porte, paf, je suis parti à la maison. Oh, le royaume de Dieu. Vous savez, c'est... Il y a des principes du royaume qu'il faut respecter. Dieu... Bon, je n'en dirai pas davantage, mais Dieu m'a copieusement châtié. La même nuit, je suis allé demander pardon. Et marcher sur des kilomètres pour aller demander pardon à la personne à qui j'ai manqué de respect. Et je suis revenu. Et je me suis mis dans la cellule où il n'y avait même pas 8 personnes, comme disciple du jeune de 17 ans, qui, lorsqu'il enseignait, franchement, je dis, mais ce gars n'a pas de révélation. Non, mais attends. Et il enseignait un évangile plat. Mais plat. Mais bon, Dieu dit, tu es là. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Voilà un esprit. J'ai dû l'apprendre, mais ça a été difficile. Et c'est au bout de cinq ans, que j'étais établi pasteur dans cette église. 5 ans. Mais avant les 5 ans, d'abord j'étais devenu moi-même dirigeant de cellules. Ensuite, responsable d'une série de cellules. Ensuite, responsable de toutes les cellules de l'église. Ensuite, pasteur assistant. Et puis après, pasteur. Pendant ce temps, j'ai appris ce qu'on appelle la discipline de l'armée. De l'armée du Seigneur, je veux dire. La discipline, être disciple. Et je vous dis une chose. La plupart de mes amis, avec qui on a commencé le ministère, qui n'ont pas connu cette discipline, n'ont pas fait long feu dans le ministère. Ils ont tous arrêté le ministère. N'ont pas pu continuer. Parce que le royaume, c'est une question de principe à respecter. Quand tu ne respectes pas, Dieu ne marche pas avec toi. Il ne marche pas. Il ne marche pas. C'est son œuvre. Comme tu n'es pas dans ces principes, il ne marche pas avec toi. Mais bon, Dieu nous aide à avoir des cœurs de disciples. Et la dernière chose que je vais dire, pour terminer, c'est que ça rejoint l'esprit d'engagement. Jésus a dit en définitive, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. À moins qu'il ne renonce, il ne peut être mon disciple. » Le sel... Pourquoi Jésus parle du sel alors qu'il vient de prendre? Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus parle de sel ici pour exprimer le fait simple que le disciple est un homme d'alliance, est un homme d'engagement. Quand il s'engage, il s'engage. Peu importe que cela lui coûte. Et moi, je vais vous encourager, mes amis, de passer du cœur des fils. C'est même pas un passage, puisque le cœur des fils, c'est en même temps un cœur des disciples. Mais de se laisser discipliner par le Seigneur. Et quand je parle de discipline, ça fait allusion à toutes les petites choses dans le ministère. Une année, on est allé en Belgique pour aller faire un séminaire d'église, de ministère. On était les ministères. On venait de Toulouse. Voilà, tel pasteur, tel évangéliste, tel prophète. On est arrivé en Belgique pour la formation de 2 semaines. Je vous assure, on a passé moins de temps à écouter la parole, à être enseigné, qu'à exécuter de petites tâches ménagères. Et c'est à la fin, les responsables nous ont dit, en fait, le séminaire, hein, c'est ça, c'était pour vous communiquer un esprit de service. C'est tout. Vous venez pour qu'on vous révèle que la Bible a été écrite par ceci. Non, c'est ça. C'est ton frère et c'est ta sœur. C'est les petites choses qui comptent dans le ministère, les amis. Les petits détails. Un ministère qui vient régulièrement en retard. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Dieu ne te confiera pas des grandes choses. Alléluia. Seigneur, tu nous parles du cœur des fils, tu nous parles du cœur des disciples. Le fils est un disciple, Seigneur, tout simplement. Et tu nous dis que tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Tu veux que nous prospérions à tous égards. Mais pour prospérer à tous égards, tu veux nous conduire, oh mon Dieu, dans les petites choses, la mentalité du royaume, du disciple. Donne-nous, Seigneur, un esprit d'exclusivité. Donne-nous, Seigneur, de nous engager, mais avec un esprit d'alliance, d'engagement. Un esprit, Seigneur, de jusqu'au boutisme, que nous allons jusqu'au bout avec toi. Seigneur, que nous ayons, oh, l'esprit, mon Dieu, de l'architecte, du constructeur. Nous voulons poser la fondation, aller jusqu'au bout, Seigneur. Terminer la tour et ne pas nous arrêter en chemin. Seigneur, aide-nous à être tes disciples. Aide-nous à mettre la barre haute. Elle peut être haute sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, Seigneur, tu dis, avec moi, vous ferez des exploits. Aide-moi à faire des exploits avec toi. Aide-moi à être davantage un disciple, Seigneur. Transforme mon cœur, ma mentalité, en mentalité de disciple. Transforme mon cœur en cœur de fils, en cœur de disciple. Seigneur, c'est à ce prix que réellement ta gloire sera tellement glorieuse et visible parmi nous, Seigneur. Mon Père, nous venons tous ensemble devant toi ce soir, comme des enfants. Et nous te demandons, te prions de nous aider à être des disciples. Nous ne le pouvons pas de nous-mêmes. Tu as dit, celui qui ne fait pas ces choses, il ne peut pas être mon disciple, même s'il le veut. Seigneur, c'est parce que nous voulons. Mais c'est ce que toi tu veux pour nous, Seigneur. Aide-moi. Aide mon frère, aide ma sœur. Seigneur, tous ceux qui n'arrivent pas à prendre des engagements pour toi, qui n'arrivent pas à s'engager dans le ministère de servir, qui n'arrivent pas à terminer la tour, qui n'arrivent pas à affronter le roi de l'autre armée, de l'armée des ténèbres, tous ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, à être ce sel avec toute sa saveur, tous ceux qui n'arrivent pas à t'aimer de façon extravagante, exclusive, et un esprit, oh mon Dieu, d'engagement, aide-les. Tu m'as prié ce soir. Aide ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Merci.